Il nous reste plus que 11 jours avant de pouvoir à nouveau s'installer dans une salle obscure face à un écran géant pour découvrir les dernières sorties, renouer avec cette ambiance si particulière. Et pour être tout à fait honnête, j'ai franchement hâte. Le lundi 22 juin, les cinémas ouvriront de nouveau leurs portes avec évidemment des mesures de distanciation physique. Quel impact cela aura-t-il? Quel impact le confinement a-t-il eu? Est-ce que, comme moi, vous avez aussi envie de retourner au ciné? Est-ce que ce sera comme avant? Je n'ai pas d'oracle sous la main, alors j'ai décidé d'en discuter avec une experte du domaine et d'aller même avec elle au-delà du champ du 7e art. Mon interlocutrice du jour s'appelle Séverine Danflous. Elle a passé quelques temps en néerlandaise puisqu'elle y a suivi les premières années de ses études avant de monter à Bordeaux, puis à Paris, à la Sorbonne, où elle décroche un master 2 de recherche en littérature comparée. Elle poursuit parallèlement sa formation littéraire, un cursus de cinéma. Ainsi, elle est aujourd'hui professeure de lettres et de cinéma, mais également autrice et critique, de cinéma toujours, pour la prestigieuse revue La 7e Obsession ou le très complet site Culture au Point. C'est par la thématique Covid, évidemment, qu'on a attaqué notre échange. J'ai voulu savoir ce qui s'était passé pour Séverine Danflous pendant ses 55 jours confinés, ce qui avait été modifié, comment la pandémie avait altéré ses différentes pratiques professionnelles.
On a fait enseignement à distance, c'était un peu complexe, surtout avec tous les enfants à la maison, voilà. Donc pas très simple, mais on a fait. D'ailleurs, il y en a un qui est à côté qui se manifeste. Et sinon, donc pour l'enseignement, c'était cette première chose. Pour ce qui est de la critique de cinéma, la revue à laquelle je participe, c'est La 7e Obsession. La 7e Obsession a pas mal travaillé sur Netflix. Ils avaient un sujet de revue qui était prévu sur Miyazaki. Mm. Donc, comme Netflix a racheté tout Miyazaki, du coup, ça tombait bien. Voilà à peu près pour ce qui est du gros sujet du numéro. Moi, du coup, j'ai participé à ce numéro, non pas en m'occupant de Miyazaki, mais j'ai retranscrit l'interview que Jean-Luc Godard avait donné à un cinéaste suisse, Lionel Bayer, sur Instagram pendant le confinement, où il parlait, comme Godard a l'habitude de faire, il a parlé à la fois un peu de virus, de cette question du confinement, mais il a parlé surtout cinéma, c'était absolument passionnant. Donc moi, j'ai retranscrit cette interview. Et voilà, après toutes les séances, toutes les projections de presse qui étaient prévues, elles ont été annulées. Donc il n'y en avait plus, les cinémas fermés. Enfin, c'était un rapport un peu particulier. J'ai des amis aussi qui ont une revue qui s'appelle Revue et Corrigée, qui travaille plutôt sur le cinéma de patrimoine. Donc sur le cinéma de patrimoine, ça peut continuer, même si du coup les sorties, évidemment, les ressorties, elles n'avaient plus lieu. Mais il y a quand même tout ce travail sur à la fois le cinéma dans un canapé et puis avec les plateformes type Netflix et puis le cinéma de patrimoine. Mais c'est sûr que c'était pas le fonctionnement habituel, et puis on va avoir du mal à, enfin, ça va prendre du temps pour y revenir, voilà.
Le point Culture G du jour. En France, l'expression cinéma de patrimoine désigne, selon la définition du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, un film dont la première date de sortie en salle est antérieure à 10 ans. Séverine Danflous disait à l'instant qu'il faudrait du temps pour que la situation se stabilise et redevienne confortable pour les cinémas, pour les exploitants. Quelle influence sur notre retour aux salles à nous est-il envisageable de retrouver le même rapport?
Alors le même, pas tout de suite forcément, parce que il y a beaucoup de tournages qui ont été suspendus, pas forcément annulés, mais en tout cas suspendus, peut-être certains des plus fragiles qui ont dû être annulés. Il paraît qu'il y a une offre assez, qu'il y avait une offre assez phénoménale quand même, que énormément de films allaient sortir, que c'était pas un problème d'après les exploitants, distributeurs, c'était pas un problème parce que ça permet d'avoir une offre assez importante pour redonner du désir aussi aux spectateurs de revenir dans les salles, et c'est vrai que c'est important. Peut-être on va essayer de laisser la chance, ce que j'ai lu en tout cas, laisser la chance tous les films qui sont sortis un peu avant le confinement, ben, de faire leur sortie, hein, leur vraie sortie. Y a pas mal de films comme ça qui ressortent, mais ça va pas se faire tout de suite. Déjà, les conditions de réouverture des cinémas sont quand même soumise à il faut laisser de l'espace entre les sièges, enfin il faut laisser un siège entre plusieurs spectateurs, donc pour les, j'imagine que pour les exploitants ça veut dire pas remplir totalement les salles, ce qui est un peu difficile, je suppose. Enfin voilà, ça va repartir à un rythme sans doute assez faible au départ, j'espère que la vie d'avant va se mettre à revenir, mais c'est un peu la même chose en fait en librairie. Pour l'instant, c'est assez, il y a des conditions sanitaires strictes et ça, enfin strictes, assez strictes, oui quand même. Et donc ça revient doucement. Voilà, ça met un peu de temps. Moi, j'ai sorti un livre juste là à la sortie du confinement et j'espère que ça va repartir, mais c'est sûr qu'on peut pas le défendre de la même façon, parce que c'est un livre sur le cinéma de Tennessee Williams, donc j'espérais pouvoir le présenter en salle, enfin ce que j'ai l'habitude de faire quand je parle d'un livre qui évoque le cinéma. Et ben là, en tout cas, ça va pas être possible tout de suite. Voilà. Peut-être on est en train de déjà préparer l'avenir, mais c'est plutôt octobre, novembre, enfin c'est pas tout de suite, voilà.
Oui, tout est un peu en suspens là.
Tout est un peu en suspens, et puis même pour la rentrée, on ne sait pas encore exactement comment ça va se faire. Alors, évidemment, on a l'espoir que ça redémarre, on a l'impression que les choses redémarrent, mais c'est doucement, voilà, en douceur.
Point culture 2. Thomas Lanier Williams III, dit Tennessee Williams, né le 26 mars 1911 à Columbus dans le Mississippi aux États-Unis et mort le 25 février 1983 à New York, est un dramaturge et écrivain américain dont de nombreuses œuvres furent portées au cinéma. Aux côtés d'Eugene O'Neill et Arthur Miller, il est considéré comme l'un des dramaturges les plus importants du XXe siècle aux États-Unis. Ça, c'est Wikipédia qui le dit. Donc une petite parenthèse littéraire s'impose avec Séverine Danflous à propos de son livre Tennessee Williams, L'écran sauvage.
Oui, alors en fait, c'est un ouvrage sur les adaptations au cinéma des pièces de Tennessee Williams. C'est sur le fait qu'il y a eu de nombreuses, enfin c'est une passion de jeune fille, de jeunesse. J'ai découvert Tennessee Williams par le cinéma. J'étais assez petite. J'avais vu Natalie Wood courir sous la pluie dans Propriété interdite, et ça m'avait bouleversée. Elle court sous la pluie et en meurt, hein, c'est l'histoire. Et ça m'avait totalement bouleversée. Après, j'ai voulu découvrir Tennessee Williams, donc j'ai beaucoup lu. Et puis, depuis très jeune, je voulais qu'il existe un livre sur Tennessee Williams et le cinéma. Et puis, ça n'arrivait jamais. Personne l'écrivait. Donc, bah, voilà, je l'ai fait.
Quelle satisfaction.
J'avais envie qu'il existe, ce livre. J'avais envie qu'on en parle, parce que c'est quand même un dramaturge qui a été énormément... adapté au cinéma, le dramaturge sans doute le plus adapté au cinéma, le dramaturge américain, le plus adapté au cinéma, à peu près, on compte à peu près 18 adaptations de Tennessee Williams, et des adaptations majeures, enfin, que ce soit Un tramway nommé Désir, La chatte sur un toit brûlant, Baby Doll, enfin voilà, des films qui ont marqué l'imaginaire collectif, et voilà, ça me paraissait quand même super important qu'il existe. Voilà.
Le fait de le faire exister, ça doit être vraiment, je le redis, mais super satisfaisant de.
Oui, c'est extrêmement satisfaisant, d'autant que mon éditeur m'a aussi permis de faire en sorte que ce soit un livre avec une iconographie extrêmement riche, un très beau livre. Je veux dire, la maquette est sublime et c'était l'éditeur qui l'a faite. Et il a permis ça aussi. C'est un peu, je lui disais, c'est un peu le genre de livre que j'aimais moi quand j'étais adolescente, où on passe des heures à regarder aussi les images. Voilà. Après, c'est un livre qui réfléchit sur les grands thèmes de Tennessee Williams, la question de la marginalité, de l'homosexualité, la censure, évidemment, au cinéma, et puis ces corps qui transpirent de désir. Et en même temps, c'est là où on a essayé d'innover ensemble, hein, encore une fois avec l'éditeur, c'est qu'on a réfléchi à un livre de cinéma qui soit un petit peu, qui réfléchit sur des grands thèmes, oui, mais aussi qui propose des analyses d'extraits de films, de séquences. Donc, il y a à peu près huit films qui sont analysés selon un angle particulier, hein, la bestialité, c'est la nuit de l'iguane, avec un extrait très précis, voilà. Donc on a essayé de faire en sorte qu'il soit à la fois assez lisible par un grand public et en même temps intéressant et utilisable aussi par des gens qui s'intéressent de plus près au cinéma, voilà.
Et donc, c'est un livre qui est sorti chez Marest comme le premier, oui. Comme Brune Platine, c'est ça?
Comme Brune Platine, voilà, tout à fait. Il est sorti chez Marest éditeur. Ouais. Fin mai. Voilà. Disponible chez Mola, notamment.
Oui, j'ai vu. C'est une voilà, belle vitrine.
Ouais, ils nous ont fait la surprise. Et c'est assez gratifiant. Puis c'est assez, comment dirais-je? Ça fait plaisir à l'étudiante que j'étais. Qui allait acheter ces livres chez Mola, c'est assez beau, voilà.
Je comprends. Et est-ce que, avec ton regard, toi, à la fois d'autrice, de journaliste et de professeur, est-ce que tu penses que cette période qu'on a vécue, ça va avoir une influence sur le cinéma de demain?
Sur la création, forcément. Alors, peut-être pas. J'espère de manière pas trop caricaturale, parce que ça les journaux de confinement, en tout cas de manière littéraire, ont commencé à pulluler. Et certains, sans doute très bons, hein. Je pense à Wajdi Mawad qui avait fait, lui, par le théâtre de la Colline sur SoundCloud. Il faisait un journal de confinement, pas tout à fait quotidien, mais presque, et c'était super intéressant. Mais bon, il y a eu des choses un peu moins enthousiasmante, on va dire. Donc, oui, ça aura un impact, forcément, parce que les gens ont vécu cette période de façon plus ou moins, peut-être pas traumatisante, mais ça laissera des traces. Donc, ça laissera des traces, sans doute, aussi dans la création. Ça veut pas dire que ce sera immédiat, ça veut pas dire, mais dans quelques temps, je pense qu'il y aura... dans les films, dans la représentation pardon, du monde et des gens, il y aura forcément un écho à ça. Et le fait qu'on soit moins en contact les uns avec les autres, en obligation un peu d'être suspicieux vis-à-vis de... notamment dans les grandes villes, hein, où ça brasse beaucoup, il y a beaucoup de monde... suspicieux vis-à-vis des gens qu'on rencontre, on ne doit pas les toucher, il faut faire attention. Enfin, forcément, il y aura une sorte d'impact, c'est pas très agréable. Voilà.
Dans le cinéma, bien sûr, mais dans la littérature, évidemment, aussi, comme vient de l'évoquer Séverine Danflousse. J'imagine d'ailleurs que cette période de confinement a pu vous évoquer certaines lectures. Et il était inimaginable pour moi de ne pas évoquer Kafka, un auteur sur lequel Séverine Danflousse a beaucoup travaillé, un de ses auteurs de prédilection. Point Culture 3 d'ailleurs. Franz Kafka est un écrivain pragois, né le 3 juillet 1883 à Prague et mort le 3 juin 1924 à Kierling. Il est considéré comme l'un des écrivains majeurs du XXe siècle. Franz Kafka, pardon, laisse une œuvre vaste, caractérisée par une atmosphère cauchemardesque, sinistre, où la bureaucratie et la société impersonnelle ont de plus en plus de prise sur l'individu.
J'ai lu que Kafka était un de tes auteurs de prédilection. Ouais. Comment tu penses qu'il aurait vécu et regardé cette période, justement, lui?
Alors, je ne sais pas du tout. je sais pas du tout. À la fin du confinement, j'ai posté sur les réseaux sociaux, je postais un extrait d'un texte de Kafka, d'une lettre précisément, dans laquelle il évoque son nécessaire confinement, si on veut. Hein. Lui, il explique combien il est important pour lui de rester enfermé pour écrire et combien il aspire à ça. Et en même temps, il peut pas constamment, parce qu'il faut bien travailler, il faut bien exister, il faut bien faire les choses du quotidien. Et puis, c'est peut-être l'aspiration de beaucoup d'écrivains. Beaucoup d'écrivains, il y a eu une espèce de comment dirais-je, certains écrivains ont manifesté le fait que, ont mis en avant plutôt le fait que de toute façon le confinement se renvoyait déjà à leur pratique quotidienne, parce que eux ils étaient confinés dans leur bureau pour écrire, etc., etc. Sauf que et ça, je crois que c'est Houellebecq qui l'a souligné, et à juste titre, sauf que on a tous besoin, y compris quand on écrit, quand on cherche, on a besoin de marcher, de réfléchir, de penser aussi en marchant. Hein. C'est Nietzsche qui pensait à cette démarche d'écrire en marchant. Et cette nécessaire marche pour penser, pour réfléchir, pour imaginer, pour creuser sa puissance créatrice, on l'avait pas. Enfin, on n'avait pas accès dans ce temps-là. Donc c'est vrai que rester de sa chambre à son bureau et tout ça, ça peut être idéal dans un moment où on a une création très très très, comment dirais-je, déjà forte, et que on est au bout de son travail presque. Ça c'est bien. Mais pas pour inventer, hein. Pour inventer, pour créer. Quand on est au point de départ d'une œuvre, je crois que ça bloque. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du fait qu'ils n'arrivaient pas, justement. Enfin, c'était un moment où ils n'arrivaient pas à créer. Voilà.
Mais surtout quand, en fait, ce confinement est imposé.
Voilà, il y avait aussi le fait que ce soit imposé par d'autres et que ce ne soit, soit pas choisi. Voilà, effectivement, hein, effectivement. Aussi.
Retour à l'air libre pour tous depuis un mois, tout pile aujourd'hui. Le monde d'après a donc a priori déjà bien commencé. On poursuit notre exploration des consciences et des envies quant à ce fameux monde d'après tant évoqué alors que nous étions confinés.
Alors, est-ce qu'il va y avoir un monde d'après peut-être. À quoi j'aimerais qu'il ressemble pour l'instant? J'ai l'impression qu'il commence un tout petit peu à y ressembler, mais peut-être que je me trompe. Certains disent le monde d'après, il est pire. Moi, j'ai tendance à être un peu plus optimiste. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus conscients, par exemple, de la société de surconsommation qu'on avait, et justement, par rapport à l'industrie du livre, enfin, à la question du livre. J'ai l'impression que j'aime pas dire consommateurs, mais les lecteurs, voilà, sont un petit peu plus conscients et se disent que peut-être il faut défendre aussi un système un peu plus équitable. Je sais pas si c'est le mot exact, mais essayer aussi de faire attention à toute la création un peu plus confidentielle, mais tout aussi intéressante que les gros mastodontes qui envahissent toutes les tables des librairies. Et bon, après, il paraît que ce qui s'est le plus vendu pendant le confinement, c'est quand même justement les best-sellers. Mais bon, j'ai envie de croire que tout d'un coup, les lecteurs deviennent un peu plus, je sais pas si on dit éco-responsables, mais un peu plus conscients, un peu, qu'ils ont envie de défendre une autre vision du monde aussi, peut-être. Et une création plus original, j'ai envie d'y croire. Et pareil dans le cinéma, bien sûr. Voilà.
Merci beaucoup, Séverine.
Merci, merci Margot.